Podcast.com. Essaye ça.
L'Express du 17 juillet. Colin, les jours s'égrènent avant que je m'en aille. Colin,
me ressourcer les chakras.
Oui, bien sûr, bien sûr. Hey, c'est drôle, tu parles de ça, d'aller te ressourcer, parce qu'il y a quelqu'un qui... Et je m'en réjouis, là, n'allez pas penser que j'ai quelques plaintes que ce soit à formuler. Mais quelqu'un qui est réapparu, qu'on voyait beaucoup moins, et qui est toujours dans le Hagoy, c'est notre ami Inédite Tremblay. Écoute, qui recommence, écoute, yes sir, le Hagoy, en tout cas, je trouvais ça pas mal sympathique. Puis j'ai encore le piton collé sur Electrolux Media.
Très drôle. Se ressourcer, moi, j'ai jamais vraiment utilisé cette expression-là. J'ai tout le temps trouvé que ça faisait un peu conspirituel. Je m'en vais pas me ressourcer. Je m'en vais me reposer pour avoir du fun par chez nous. T'sais, c'est pas mal. Bon,
ben correct, ça. Fais donc ça.
Hey, parlant de par chez nous, tu m'as envoyé un sujet aujourd'hui. Puis on en parle dans le journal de Montréal, puis aussi un peu ailleurs, je pense. C'est une nouvelle, puis c'est pas une nouvelle, dans le sens que c'est pas un nouveau phénomène, mais ça s'accélère depuis les dernières années, puis ça concerne les îles de la Madeleine, c'est pour ça que tu m'as envoyé ça.
On parle de
l'érosion qui est difficile à freiner, qui va très, très vite. On perd environ un demi-mètre de chaque berge des îles de la Madeleine. C'est déjà pas très grand, hein? C'est un archipel de petites îles, et puis elles rapetissent à vue d'œil. D'ailleurs, on en a eu lors de la tempête Fiona, elle a rapetissé pas mal. Là. Quand il y a des grosses tempêtes comme ça, ça gruge les îles. Puis ça les transforme en désert aussi. Ça, on le dit pas dans l'article, mais moi, je peux vous le dire. C'est que souvent, ce qui va arriver, c'est que la mer va gruger les falaises de grès rouge. La terre est très, très rouge aux îles. La terre et les falaises et les rochers, parce qu'elle est riche en oxyde de fer. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de fer qui rouille au contact de l'air, fait que ça devient rouge. Donc, c'est comme de la terre rouillée. C'est très, très, très beau. Donc, ce grès rouge-là est ramassé par les vagues et grugé petit à petit. Puis surtout, quand il y a des tempêtes, là, ça part par gros morceaux. Et cette terre-là se retrouve à être lavée par la mer et redéposée un peu plus loin sous forme de sable. Donc, de moins en moins de terre et de plus en plus de sable. Les îles sont reliées par des immenses dunes de sable qui font plusieurs kilomètres. C'est là-dessus qu'il y a la route. La route est sur une dune de sable. C'est comme ça que les îles sont reliées. Elles se touchent pas mal toutes. Il y a deux petits ponts. Puis il y a une île. Il y a des îles qui sont séparées de l'archipel, mais il n'y en a qu'une seule qui est habitée. Dans celle qui. Puis il doit peut-être rester une cinquantaine de familles sur l'île d'entrée. Et puis l'île Brion, qui autrefois était habitée, aujourd'hui ne l'est plus. C'est devenu un refuge pour les oiseaux. Il y a beaucoup de... Quand on se promène en bateau autour de ça, il y a des milliers et des milliers et des milliers de phoques. Tu les vois passer en dessous du bateau, tu les vois partout. C'est comme dans un documentaire. Il y a des baleines aussi. Il y a des requins. D'ailleurs, il y avait une nouvelle la semaine passée. J'ai pas pensé d'en parler dans l'Express, mais... ils ont trouvé un marsouin. En fait, il y a des pêcheurs qui ont assisté à une attaque de requin sur un marsouin, qui est un petit cétacé, une petite baleine qui ressemble à un dauphin avec le nez un peu plus, un peu moins pointu. Coupé en deux carrément. C'est un grand requin blanc. Il a pris une bouchée, ça l'a chopé en deux. Il a chopé une petite baleine en deux. Des grands requins blancs, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des requins aux îles. Là. C'est pas une nouveauté. C'est sûr que quand on les aperçoit, on fait une grosse nouvelle avec ça. Regardez, c'est le requin du film Jaws, c'est le grand requin blanc. Mais toujours eu beaucoup de requins aux îles. Autrefois, il y avait de la pêche commerciale du mako, qui est une autre espèce de requin. Moi-même, j'ai pêché beaucoup d'aiguillas, les chiens de mer qu'on appelle. C'est une sorte de requin qu'on retrouve beaucoup quand on pêche la morue. Mais ouais, je vous glisse un mot là-dessus parce que je sais que tout l'été, vous risquez de voir des images ou des nouvelles qui concernent des requins aux îles. C'est pas une nouveauté. L'érosion aussi, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que ça s'aggrave. Dans l'article, on parle de paysages qui changent, de souvenirs qui sont plus là. Moi-même, il y a beaucoup de de plages et de falaises qui étaient là quand j'étais petit, qui n'y sont plus. Autrefois, la dune du Sud, il y avait une espèce d'arche, un mini rocher percé. Quand j'étais petit, quand j'avais entre 6 et 10 ans. Puis ça, c'est tombé, puis c'est tombé, puis disparu. Il n'émerge rien de ça. Là. La mer l'a tout bouffé. Il y avait ce qu'on appelait des éléphants, c'est des espèces de rochers, parce que la mer prend des morceaux, puis des fois, elle laisse des trous, un peu comme le rocher percé. Donc, il y en avait plusieurs qui prenaient une forme d'éléphant, parce que c'était une grosse roche avec un trou, puis il restait une espèce de colonne qui le tenait. Ça faisait comme la trompe de l'éléphant. Fait que t'avais comme, pour vrai, ça avait vraiment une forme d'éléphant. Les falaises changent beaucoup, puis là, ben, on est rendu être obligé d'essayer de fabriquer des berges parce que elles se font trop gruger par la mer. Je sais que t'as des photos, Martin. On peut montrer ça.
Mais là, attends, avant qu'on aille là, ça veut dire que on peut donc en déduire là. Parce qu'il y a un article dans la presse, évidemment, c'est ça qui m'a fait t'envoyer ça, puis qu'on parle de ça un matin, là. Mais fait que donc nous pourrions en déduire que c'est la crue des océans qui pourrait être causée par la fonte des glaciers précipités, qui pourrait faire en sorte que là, ben, ça gruge plus que normalement ou qu'avant, là.
Ben, c'est plusieurs conditions qui causent ça. Oui, l'océan a monté, mais c'est pas tellement une question de niveau de la mer tant que les intempéries et l'absence de glace.
OK, c'est ça, là, parce que
le niveau de la mer, oui, a monté, les îles s'enfoncent un petit peu. Les îles, les îles à Madeleine, c'est vraiment une formation géologique qui est unique au monde. C'est des îles qui sont sur des dômes de sel géants, 5 dômes de sel, si je me souviens bien. Puis quand je dis du sel, c'est beaucoup de sel. T'sais, c'est en dessous de Havre-aux-Maisons, je pense que c'est le plus gros dôme de sel. C'est, je pense, quelque chose comme 6-7 kilomètres de sel en profondeur. Là. C'est pour ça aussi qu'aux îles, il y a une mine de sel qui fonctionne. Beaucoup de gens gagnent leur vie là-dessus, d'une maison notamment. Fait que oui, c'est beaucoup du sel, c'est des dômes de sel. Fait que ça, c'est quand même assez stable. Mais ce qui arrive, c'est que, un, oui, la mer monte, mais deux, les tempêtes sont de plus en plus fortes. Puis ouais, ça, les tempêtes, ça fait vraiment des changements dramatiques. Tu vas la veille sur le bord de la berge, puis tu y vas le lendemain de la tempête, puis c'est plus la même berge. Ou ben ta maison est à 22 mètres de la falaise, puis deux jours après la tempête, est à 15 mètres. Tu sais, ça change vraiment beaucoup. Il y a des gens qui sont obligés de déplacer leur maison.
L'érosion en général qui peut être causée par plusieurs facteurs. Là.
Oui, c'est ça. Puis il y a aussi l'absence de glace. Les glaces, il y en a de moins en moins. Parce que au printemps, d'ailleurs, c'est la période de la chasse aux phoques, les glaciers descendent de l'Antarctique et viennent emprisonner comme des icebergs ou des grands glaciers viennent emprisonner les îles, mais ça se trouve à protéger les berges, cette glace-là, parce que la mer, elle, ne gèle jamais, mais les glaces, elles, en se collant sur les îles, servent de rempart pour les îles, justement, face à la mer qui prend des morceaux et prend des morceaux, puis les grosses tempêtes comme Fiona en 2022, ça prend des grosses bouchées pour ceux qui sont déjà allés. Le site historique de la Grave, qui est en fait, c'est là que les îles ont commencé. C'est le premier port de pêche, c'est une espèce de havre. Puis aujourd'hui, évidemment, c'est très, très touristique. Les petites maisons sont transformées en boutiques, tout ça. Puis de la terrasse d'un des endroits où on aime bien aller, qui s'appelle la Gabarre, avant, de la terrasse, on voyait les vagues se jeter sur l'eau, tout ça. Puis pour pallier à l'érosion, on a été obligé de faire une berge artificielle, c'est-à-dire de transporter des milliers de tonnes de roches, de gravier. Bon, c'est pas de la gravelle trois quarts comme dans votre entrée, madame ou monsieur. C'est plus beau que ça, là. Ça reste du gravier de la mer. T'sais. Mais on a créé une plage de plus de 4-5 pieds de haut, là, je vous dirais, là. Tu sais, ça, c'est... Mais tellement que de la terrasse, maintenant, on voit plus la mer qui se... les vagues qui arrivent sur les berges parce qu'on a créé ça par-dessus. Puis d'ailleurs, on a très bien fait parce que, tu sais, ils ont fait ça l'année qui a précédé la tempête Fiona en 2022. Donc, en 2021, on a travaillé là-dessus. D'ailleurs, c'est le cas aussi à Cap-aux-Meules où on est obligé de faire des plages artificielles en gravier parce que les falaises s'effondrent trop vite. La piste cyclable où...
Ouais, ben là, on va en montrer. Là. Attends un peu. Là. Okay. Tiens, regarde comme ça. C'est un bel exemple là, de ouais. d'effondrement, là, carrément. Là.
Oui, absolument. Ça, c'est la piste cyclable, si je me trompe pas, à Cap-aux-Meules. Cap-aux-Meules, c'est l'île la plus habitée. Puis la piste cyclable passe derrière les bâtiments de la route principale, la 199. Ça, c'est à peu près derrière l'hôpital. Et puis, normalement, cette piste cyclable-là, il y avait plusieurs mètres qui la séparaient de la falaise. Parce que les falaises, en plus, de la façon que ça... Tu peux pas t'approcher des bords parce que de la façon que c'est grugé, c'est évidemment le bas part en premier. Puis à un moment donné, t'as comme... un espèce de petit plancher, mais c'est vide sous tes pieds. Fait que ça peut s'effondrer pendant que tu tiens sur le bord.
On va en montrer, là, tiens.
Oui, tiens, d'ailleurs, il y a des ces pancartes-là qui expliquent le phénomène que je vous décris. Ben c'est ça. Là, la piste cyclable, c'est fait gruger. Puis d'ailleurs, à un endroit aussi encore pire que ça. Fait que c'est pour ça que les falaises ne sont pas égales. Ça fait comme des creux, des espèces de petits bras de mer. C'est parce que ça part en gros morceaux comme ça. Puis
ben regarde, j'ai un super bel exemple, regarde ça là, c'est
ouais,
ce que
ça,
tu
c'est,
décrire,
ouais. Ça c'est pas mal, tu sais, en longboard c'est très difficile à négocier, je peux vous dire ça. Mais oui, ça change beaucoup le paysage, puis ça change très vite. Tu sais, cette piste cyclable là était pas si vieille que ça là. Je pense que quand j'étais petit, elle existait même pas. Là. On l'a bâti, puis elle s'effondre avant la durée de vie de l'asphalte, là, tu sais, qui est pas si longue que ça au Québec, encore moins aux îles. Mais ouais, ça commence à être un peu paniquant pour bien du monde. Là, avec l'Université du Québec à Rimouski, on s'attarde encore plus au phénomène. On veut faire de l'archipel des îles une espèce de laboratoire à l'échelle humaine de la lutte pour les changements climatiques parce que les îles, c'est des petites îles en plein milieu du golfe Saint-Laurent. Fait que tu sais, ça peut pas être plus exposé que ça aux éléments, à la mer, tout ça. Puis avec l'absence des glaces qui protégeaient les îles, d'ailleurs, c'est tellement fragile. Il y a un organisme qui s'appelle Fragile, Frage apostrophe île pour les îles. Il y a d'autres enjeux aussi liés à ces phénomènes-là. Le fait qu'il n'y a plus de glace et plus de neige l'hiver. Parce que autrefois, moi j'ai déjà fait du skidoo aux îles. Aujourd'hui, ça se peut pas du skidoo aux îles parce qu'il n'y a pas de neige. Il neige de gauche à droite. Il y a pas d'accumulation.
Ça s'accumule pas.
Il fait trop chaud, premièrement. Il fait trop chaud l'hiver. Puis quand il y a de la neige, ça fait quelques dunes parce qu'il y a tellement de vent et qu'il n'y a plus rien pour arrêter la neige. Puis le fait qu'il n'y ait pas de neige, ça fait que quand ça gèle, le sol gèle en profondeur, ce qui fait qu'au dégel, l'eau du peu de neige qui s'est accumulée, qui devrait rejoindre la nappe phréatique, se retrouve balayée par le vent et la terre, puisqu'elle est gelée, parce qu'elle n'est pas protégée par un manteau de neige, le peu de neige qui fond, l'eau que ça produit, ne va pas rejoindre la nappe phréatique, ça va ruisseler sur la terre gelée jusqu'à rejoindre la mer. Donc, toute cette eau douce-là qui est perdue fait que des fois aux îles, pendant quelques jours, ben il faut couper l'eau carrément aux résidents. On coupe l'eau. On dit, bon, ben là, on va vous couper l'eau une journée ou deux parce que on en a plus. La nappe phréatique est vide. Puis, tu sais, il y a des priorités. Fait que, tu sais, personne n'arrose son gazon aux îles. L'eau est une ressource très précieuse aux îles. Quand tu es entouré d'eau salée, l'eau douce, c'est rare. Donc ça aussi c'est en partie causé par les c'est beaucoup causé par les changements climatiques, le fait qu'il y ait plus de vrais hivers. Donc c'est ça qu'on fait. Puis là dans l'article on parle aussi de d'une autre plage qui a été faite justement à Cap-aux-Meules. Ils ont fait en fait c'est pas tellement à Cap-aux-Meules, t'sais, je l'ai vu l'an passé où ils travaillaient, c'est au début de la Martinique qui relie Cap-aux-Meules à Havre-Aubert. Puis la Martinique, c'est une immense dune aussi, comme la dune du Sud, comme c'est qui relie les îles ensemble. Fait qu'ils sont obligés de faire une plage en roche par-dessus la plage de sable parfait. Le sable est tellement doux aux îles, c'est hallucinant. Il crisse quand tu marches dedans. Là. Quand tu marches puis tu donnes des coups de talon, ça fait squeak squeak. C'est vraiment étrange comme son. C'est parce que le sable est extrêmement fin, donc il est très facile à transporter pour la mer. Fait qu'on rajoute de la roche par-dessus ça pour essayer de préserver ce qui relie les îles ensemble. Tantôt, je vous parlais de l'île Brion, qui est un refuge pour oiseaux. Puis c'est plein de phoques, tout ça. Puis Les oiseaux, c'est vraiment impressionnant. Là. Il y a des guillemots, des macareux moines, cette espèce d'oiseau-là qui ressemble un peu à un mélange entre un toucan et un pingouin. Il y a plusieurs couleurs sur le bec. C'est un animal magnifique, le macareux. Il y a aussi des guillemots. Il y a un paquet de pingouins qui vivent sur ces îles-là. Autrefois, on appelait ça, il y a une partie de l'île qu'on appelait la saddle, la selle, parce que ça avait un peu la forme d'une selle. Ça descendait puis ça remontait. Ben maintenant, le cowboy ne peut plus s'asseoir parce que la partie selle est maintenant submergée par la mer, mais pas un peu. Là, on a passé dessus en bateau l'année passée. Là. On a passé en bateau à un endroit où on pouvait marcher autrefois. Puis pas autrefois, il y a 50 ans. Autrefois, il y a 3 ans, là, 3-4 ans, tu sais, où... Bon, peut-être une dizaine d'années, mais pas plus que ça. Fait que c'est très rapide. Les îles disparaissent. D'ailleurs, si vous voulez les visiter, dépêchez-vous.
Ouais, mais attends, là, c'est quoi le pronostic? T'sais, les gens qui les familles qui sont là, puis qui ont des résidences, là, peut-être, j'imagine, stratégiquement positionnées aux endroits où ça risque de prendre le plus de temps. Tu sais, y a-tu des gens qui sont penchés sur la question? On parle-tu de centaines d'années? On parle-tu de... Tu sais, c'est quoi le...
Ah, ben les terrains rapetissent, puis il y a des gens qui sont forcés de reculer leur maison ou faire des berges artificielles, parce que il y a pas tellement... les îles sont pas très grandes, fait que t'es tout le temps sur le bord de la mer, ou tu sais, ou ben si t'es au milieu de l'île, tu vois toujours la mer, mais évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'habitations qui sont très proches de la mer. D'ailleurs, dans l'article, on relate l'expérience de gens qui se sont fait une plage en gravier aussi, comme ça, parce qu'ils perdaient leur terrain au profit de la mer. Et ça a coûté évidemment des milliers de dollars à ces gens-là. Puis la tempête de 2022, Fiona, a juste tout ramassé. Ce qui était censé protéger des tempêtes a été ramassé par la tempête. Sur YouTube ou bien sur Internet, si vous voulez voir des images de la tempête Fiona, c'était comme un ouragan, mais au Québec. Puis que ça a vraiment tout grugé, tu sais. Puis ils ont tout perdu leur investissement, aussi simple que ça. Mais là, il y a des solutions qui sont envisagées. En tout cas, ben, ce qu'on fait aux îles depuis des années. Quand j'étais petit, on parlait déjà de l'érosion, là. Puis il n'y avait pas encore le spectre des changements climatiques. Moi, en tout cas, on n'avait pas encore identifié ce problème-là. Donc, ça fait longtemps qu'on essaie de tenir les îles ensemble. Pour ça, il y a plusieurs moyens. Notamment, on a interdit aux VTT de circuler sur les dunes de sable parce que ça détruit ce qu'on appelle aux îles le foin de dune. Le vrai nom, c'est l'amophile. C'est une plante, c'est une graminée, en fait. Ça, c'est une céréale. Ça produit des grains dont on peut faire une farine puis manger. Mais ça, c'est du foin qui pousse dans le sable, même du sable qui a l'air très, très sec, là, du sable comme dans le sud. Mais justement, ces plantes-là réussissent à pousser là, elles captent l'humidité dans l'air qui vient de la mer, puis les racines s'enfoncent profondément. Et ce que ça fait, c'est que ça tient les dunes ensemble. Puis malgré ça, les dunes bougent. C'est d'une année à l'autre, les dunes changent de place à cause du vent, puis à cause de tout ça. Mais avec cette végétation-là, les racines tiennent les dunes ensemble, puis ça tient les îles ensemble. Fait qu'on a interdit les VTT à plusieurs endroits, sauf les sentiers qui sont balisés, qui ont été identifiés comme sécuritaires, parce que c'est ça qui détruisait beaucoup les dunes et l'amophile. Donc, on a replanté, on a semé de l'amophile partout pour que ça fasse son travail de tenir les dunes ensemble.
Un genre de meshing là, qui se fait avec les racines de ça.
Exactement, c'est en plein ça. Puis on essaie de pas marcher là aux îles. Puis aussi, c'est l'habitat d'un oiseau qui est menacé, qui s'appelle le pluvier siffleur. C'est-tu le siffleur? Je pense que oui. Qui pond directement sur le sable. Maudit niaiseux. Non, c'est une joke. Mais on essaie de pas marcher sur les dunes. Si vous y allez aux îles, arrivez pas avec votre bicycle électrique dans les dunes. Premièrement, vous allez rester pris. Puis deuxièmement, ben vous allez vous faire regarder croche. T'sais, puis les gens sont tellement conscientisés à l'environnement. Aujourd'hui, bon, on peut... Tu te promènes n'importe où, dans n'importe quelle ville, puis tu ouvres ton paquet de cigarettes, tu jettes le papier à terre. Il y a du monde qui va te trouver cochon un peu. Mais ça, c'est assez récent, ce phénomène-là. Aux îles, ça fait vraiment longtemps que c'est comme ça. Quand j'étais jeune, puis j'étais adolescent, je vivais là, tu jetais déjà pas tes cochonneries à terre. Parce que c'est tellement petit que si tu te mets à cochonner, c'est pas long que ça paraît. Puis ça s'en va directement.
Ça devrait être de même partout.
Ça devrait être de même partout. Mais les îles avaient une longueur d'avance. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus fragiles. Donc, On a aussi une solution, une innovation technologique. C'est un béton vert, parce que du béton, tu sais, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est pas du sable puis de l'eau. Hein. Du béton, c'est des produits chimiques. Puis quand ça durcit, c'est pas que ça sèche au soleil, là. C'est une réaction chimique qui s'opère, là. D'ailleurs, quand tu fais du béton, puis moi j'ai travaillé un peu là-dedans parce que j'ai installé des piscines pendant un été de temps, notamment des piscines creusées. Puis quand on coulait le béton, parfois il fallait l'arroser pendant qu'il durcissait parce que il venait trop chaud, ça devient chaud. L'opération du béton qui durcit, ça produit de la chaleur, c'est une réaction chimique, puis c'est très acide, faut pas trop que tu touches à ça. Il fallait l'arroser parce que il devenait trop chaud, puis il aurait pu craquer. Fait que du béton, c'est pas vert, c'est ça pollue. D'ailleurs, l'usine de béton en Gaspésie est un des plus gros pollueurs du Québec, si ce n'est du Canada. Donc, on a mis au point un béton vert qui est fait à partir de coquillages de mollusques. C'est un béton qui est beaucoup moins polluant. Puis ça, il est fait à partir de coquillages. Donc, le retrouver sur le bord de la mer, c'est assez... C'est plus naturel, en tout cas, que juste du gros béton de style Montréal. Donc, on utilise ça pour essayer de faire tenir les îles ensemble. On va faire des murets, on va faire ce qu'on appelle des recharges de plage. J'imagine que c'est peut-être concassé. Je sais pas exactement les détails de cette technologie-là, mais c'est un des moyens qu'on a développé pour essayer de sauver les îles avant qu'elles ne disparaissent ou avant que Julie Snyder les achète toutes. Hein. Les gens des îles savent de quoi je parle, Julie Snyder. On a acheté un bon petit morceau. Mais au moins, j'ai pas un mot à dire contre Julie Snyder parce qu'elle préserve la partie qu'elle a achetée. Et elle le garde naturel, fait que je suis bien content, en fait. Puis, c'est ça, on travaille fort là-dessus. Puis, c'est inquiétant. Puis, je sais que quand je serai aux îles d'ici une semaine, il y a des parties que je reconnaîtrai pas. Je sais que par rapport à l'an passé, il y a des falaises qui vont avoir tombé. Il va y avoir des monolithes qui vont avoir tombé. Ça change tellement vite que aux îles, il y a une activité qui est assez populaire, qui est vraiment le fun à faire. Ça se passe à l'île de Grande Entrée. Puis, c'est la Salicorne. Je cherchais le nom dans ma tête. La Salicorne qui organise ça, c'est de visiter des grottes. Parce qu'évidemment, l'érosion, ça produit aussi des grottes dans le grès rouge. Ça creuse, puis ça fait des magnifiques grottes que tu peux visiter soit en Zodiac, notamment avec Excursion en mer, une entreprise de Cap-aux-Meules. Mais tu peux aussi aller à Grande Entrée puis les visiter en flottaison. On te donne un gros wetsuit avec gilet de sauvetage. Tu peux pas te noyer, là. Puis tu te promènes en nageant, en pataugeant d'une grotte à l'autre. C'est avec les vagues là-dedans. T'es dans la grotte, les vagues qui arrivent, l'eau monte, l'eau descend. C'est vraiment magnifique. C'est toute une expérience. Je l'ai fait plusieurs fois. Puis d'une année à l'autre, c'est pas les mêmes grottes qu'on observe. Pourquoi? Parce que les grottes changent. Ils changent tellement vite qu'il faut changer. Il y en a aussi qui deviennent dangereuses, qui menacent de s'effondrer, qui sont plus sécuritaires, celles-là, on y va plus. Mais le parcours change d'année en année tellement la rive, les berges et les grottes sont transformées par la mer. Fait qu'on est tombé un peu en situation d'urgence parce que le phénomène qui existe depuis toujours et qui était déjà urgent quand j'étais petit, aujourd'hui s'est rendu alarmant parce que les îles disparaissent à une vitesse trop vite. Je me souviens que quand j'étais adolescent, on disait qu'on perdait tant de centimètres, là, on le rendait à la moitié d'un mètre. Là. Ça commence à gruger vite.
Ben, la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir nous envoyer plein de photos et d'affaires de ton séjour là-bas. Mais encore une fois, si tu veux qu'on dise, une autre démonstration palpable de ce que le réchauffement climatique peut causer. Mais hey, on fait de la propagande. Tu sais, pas correct ce qu'on fait là, parce que
voilà, c'est
écoute, hein, ben oui, il y avait des inondations là en 88, là, je vois pas pourquoi tout le monde capote.
Ah, c'est tout pas vrai, ça, c'est un complot du gouvernement pour que les Blancs s'en aillent et qu'ils mettent des ethnies sur les îles, c'est grand remplacement. Puis, j'ai les commentaires, il y a une île où ça parle juste anglais aux îles, il y a plus qu'une île en fait, je pense qu'à Grosse-Île aussi ça parle anglais, mais je pense que tu parles de l'île d'entrée, qui est l'île qui est isolée, dont la seule façon de se rendre, c'est en bateau. D'ailleurs, les gens qui vivent là, quand ils vont faire l'épicerie, parce qu'il y a juste un petit dépanneur slash magasin général sur l'île d'entrée, ils mettent leur pick-up sur leur bateau de pêche, ils traversent à Cap aux Meules, débarquent leur pick-up, vont faire leur commission. Après ça, ils remettent le pick-up avec l'épicerie dedans. Puis, les groceries. Puis, c'est pas vrai, ils parlent pas chiac aux îles. Là. Ils mélangent pas le français puis l'anglais. D'ailleurs, les deux communautés, français et anglais, se parlent à peu près pas. C'est étrange. Puis, ils remettent le pick-up sur le bateau puis ils retournent sur leur île comme ça. Mais je pense qu'il reste quelque chose comme une cinquantaine de familles sur cette île-là. Donc, puis eux autres, là, les enfants qui vont à l'école, l'autobus scolaire, ben c'est un bateau. C'est vraiment, c'est un autre mode de vie. Là. Si vous allez sur les îles, c'est certainement le seul endroit au Québec où vous allez vraiment être dépaysé. Parce que la nature est pas pareille, les animaux c'est pas les mêmes, les plantes, la végétation c'est pas les mêmes. Il y a rien qui ressemble à rien au Québec, aux îles. Tu sais, la Gaspésie, oui c'est la mer tout ça, mais ça reste le continent. Tu sais, fait que quand vous allez sur les îles, c'est un autre monde. Je vous suggère fortement d'y aller avant qu'il en reste plus, mais je vous avertis que si vous voulez y aller, prévoyez ça d'avance. Là. Le bateau, tout ça, l'hébergement, prévoyez ça genre un an d'avance.
Bon, c'est une patte, tu risques de faire le saut au sujet de l'opinion de Frank sur la chasse au phoque, mon cher.
Et Colin, non, moi je suis en faveur de la... Je suis en faveur de la chasse au phoque. J'en ferai pas un sujet parce que c'est trop long, mais il y a pas de raison valable, bien informé, de s'opposer à la chasse aux phoques. Fiez-vous pas aux films des animalistes. Puis quand je dis animalistes, c'est pour les distinguer des écologistes et des environnementalistes. Les écologistes, les environnementalistes, les scientifiques sont tous en faveur de la chasse aux phoques parce que il y a une surpopulation épouvantable de phoques qui est après de détruire les autres ressources. Puis la chasse est réalisée de façon très correcte. C'est juste que c'est spectaculaire. Fait qu'ils prennent des images d'abattage, tout ça, mais le taux d'abattage, le succès des taux d'abattage est supérieur pour les chasseurs de phoques des îles que dans n'importe quel abattoir fédéral où on tue un peu tout croche des fois ce que vous mangez ce midi pour dîner. Fait que y a pas de raison vraiment. Oui, phoque Bardot, mais hein. Y a pas vraiment de raison de s'opposer à la chasse aux phoques. Là, on fait des films là, du côté de PETA puis Sea Shepherd. Ces gens-là font de la désinformation. Puis la raison, c'est parce que c'est extrêmement payant de s'opposer à la chasse aux phoques. C'est, on va vous dire, regardez, là, ils tuent des blanchons, puis il faut protéger les blanchons. Même Paul McCartney, il est allé là. Puis il est allé prendre des photos de lui avec un petit blanchon dans les mains. Ça fait juste 40 ans que le blanchon est plus chassé du tout, là. Il n'y a personne qui tue des blanchons depuis 40 ans. Puis Paul McCartney est arrivé là avec son avion, puis deux hélicoptères, puis ils sont allés tout habillés en soute orange, tout fait en pétrole, puis ils ont gaspillé des milliers puis des milliers de litres de gaz pour aller dire aux Madelinos de plus vivre comme ils vivent. Tu sais, c'est n'importe quoi. Là. Paul McCartney, ouais. Je pense que c'est fait un petit peu...
Embligué. Oui, je t'arrête. Parce
oui,
que
oui, c'est ça. Je pourrais en parler longtemps. Mais il n'y a pas de. Je vais juste résumer. Il n'y a pas de raison valable, environnementale et, ou humaine de s'opposer à la chasse aux phoques. C'est une chasse responsable. Elle est très bien faite. Et les images que vous voyez choquantes, elles sont choisies pour ça. Et des fois même, elles sont truquées. Il y a des gens qui ont filmé les animalistes, genre de PETA, pendant qu'ils prenaient un phoque qui était blessé, puis ils l'empêchaient de retourner, puis ils prenaient des gros plans, puis ils s'en servaient. Là, parce que c'est ultra payant de s'opposer à la chasse aux phoques. Fin de la parenthèse.
Hier, il est arrivé, on va changer de registre pas mal, vite fait, là, une petite quickie, parce que ça a été mentionné pendant qu'on était dans l'after show, puis j'ai creusé un petit peu cette information-là, parce que, tu sais, ça y aurait pu y avoir un peu de véracité dedans, et c'est le cas, il y en a. Il y a une couple de fans de Source of Freedom qui ont mentionné sur les médias sociaux que... genre du 17 au 19 ou quelque chose comme ça, que Elon Musk était pour diffuser Sound of Freedom sur Twitter. Ben, je t'explique exactement ce qui est arrivé. C'est en fait, il y a un compte Twitter qui s'appelle Sound of Freedom, qui est de la production du film. Ce sont les gens qui ont produit le film qui gèrent ce compte-là. Et ils faisaient une annonce et ont dit que bon, les Sound of Freedom arrivent dans les salles de cinéma le 4 juillet.
Le film de Mel Gibson?
Essayer de nous... en mentionnant que leur objectif, c'était qu'il y ait 2 millions de personnes qui aillent voir ça dans la semaine d'ouverture. Puis on cite, bon, 2 million for 2 million, machin, parce que leur prétention, c'est qu'il y a 2 millions d'enfants qui sont victimes de trafic d'enfants annuellement. Et, fait que c'était ça le concept. Et là, ben, Elon Musk a répondu à ça Je vais le dire en anglais puis le traduire après. I recommend putting on this platform for free for a brief period or just asking people to subscribe to support. We would not keep any funds. Je vous recommande de diffuser le film gratuitement sur cette plateforme pour une courte période de temps et on va juste demander aux gens de souscrire puis on va vous donner l'argent. Et ce à quoi le distributeur du film, Angel Studios, a répondu, c'est une idée intéressante, discutons. Fin. C'est tout. Il n'y a pas d'Elon Musk qui a dit qu'il diffuserait le film. J'ai passé au crible le feed Twitter. Ça se peut que je l'aie manqué s'il a dit ça, mais à ma connaissance, il n'a pas dit ça. Puis il y a des gens de Angel Studios, dont Neil Harmon, bien sûr, dont on parle beaucoup ces temps-ci, qui lui a répondu en disant merci d'apporter plus d'attention à cette histoire vraie. Les millions d'enfants qu'elle représente et de nous offrir cette option. Et puis là, ben, s'en suit une espèce de thread là, qui est sorti de ça, dans lequel il y a plein de figures de proue, n'est-ce pas, de cette mouvance qui ont remercié Elon Musk. Parce que Elon Musk, c'est un trollardaire qui gère présentement une plateforme qui est en perte de croissance, qui a perdu la moitié. C'est pas Martin Godette qui dit ça, là. Il a perdu la moitié de ses revenus publicitaires depuis qu'il a pris le contrôle de cette plateforme-là. Ça, c'est sans compter d'avoir éclairé une affaire ouais. comme 7-8 000 personnes. Ça, c'est sans compter d'avoir augmenté le coût du Blue Check. Ça, c'est sans compter qu'il n'est pas possible de partager de liens vers d'autres plateformes, dont celle de Threads. C'est un gars qui voit des Hail Mary partout puis qui essaye tout pour apporter de la visibilité à sa plateforme avec ses propos de sans-dessin, puis qui fait des propositions de ce genre-là. Ça a tous les symptômes de quelqu'un qui est en panique, puis qui essaye de sauver un bateau, qui, lui aussi, un peu malheureusement, comme les îles de la Madeleine, prend l'eau.
Puis d'ailleurs, tu sais, il a laissé libre cours à tous les haïsseurs professionnels de sévir en toute impunité là, puis je me rappelle le lendemain qu'il l'avait acheté là, t'avais le mot nazi partout, puis on faisait exprès là d'être raciste, puis on faisait exprès d'être il a scrappé, Twitter, c'est ça qu'il a fait. Fait que calmez-vous, le génie là, il est pas si génial que ça là.
Il a redonné des comptes Twitter à des maillets comme Alexis Cossette-Trudel, comme Donald Andrew Trump. Tate. Donald Trump, Andrew Tate, name it, garde. Résume ça. C'est lui qui a. Il l'a pas débauché parce qu'il était déjà pu à Fox. Mais regarde, il est où Tucker Carlson?
Non, il est là. C'est le dépotoir des communications. Là. Puis, ça allait bien pendant 10-15 ans avant qu'il arrive. Puis là, il arrive, puis il prend ses décisions-là. Puis, regarde, Threads va ramasser tout le monde. Moi, j'avais de me faire un compte. Là. Toi, c'est fait, je suis certain. Mais je t'avais de me faire un aussi. Là. Ben oui, c'est sûr. C'est la première journée. Mais je vais sûrement faire ça aussi.
Puis les gens qui me suivent sur Twitter, là, je vais en parler demain. C'est un sujet que je vais aborder demain parce qu'il y a des carences du côté de Threads. Là. C'est pas le nouveau pain tranché. Il y a des carences au niveau de la sécurité. Il y a des carences au niveau de l'ergonomie de la plateforme. T'sais, tu peux pas prévoir un thread. Tu peux pas scheduler, excusez l'anglicisme.
Ça va se développer.
Ben c'est ça. Il y a pas actuellement, il y a pas d'engin de statistique. Il y a pas de, tu sais, tu comprends. Fait que mais on comprend là que c'est en démarrage. Là, faut pas s'attendre. Jezabel, t'as lu le même article que moi là, mais moi je vais aller un petit peu plus loin que ce qu'ils disent dans cet article là. Fait que c'est pour ça que je dis que je vais en parler demain parce que j'ai pas eu le temps de me préparer. Mais je lirai pas un article puis dire que c'est un paradis pour les pirates. Là. M'en lire plus qu'un puis je vais creuser plus que ça, Jezabel, parce que j'ai eu 18 sur 20 dans le test de susceptibilité à la désinformation. Fait que je verrai pas rien qu'une source.
Ah, c'est ça. On a fait nos preuves. C'était drôle, ça, ce test-là.
Ouais. Ben, j'ai partagé le lien hier. Pour les gens qui savent pas.
Chance que
de
j'ai
scoré
pas pire. J'arrive là à la cave.
Ben,
t'es verdict 1 sur 20 que t'es un conspi.
Je t'aurais pas fait faire un test sur le monde de la lutte professionnelle. Tu sais, je veux dire, je savais que tu scorerais bien. Je te connais depuis assez longtemps. Mais je vais aller, je veux juste aller leur donner aux gens. Si vous êtes curieux, hier, dans l'épisode 256 du Crachoir, on a fait faire à Frank un test que moi aussi j'avais fait, qui calcule, en fait, votre susceptibilité à être, je vais dire, victime de désinformation, ou en tout cas, à la déceler. Lorsque vous êtes exposé à ça, tiens, je vous envoie ça dans le chat, je vais le mettre en feature aussi, je vais l'épingler, pardon. Donc voilà, c'est là. Fait que si vous voulez le passer, le test, allez-y fort. Mais donc voilà, fait qu'on va creuser ça, l'histoire de Threads, là, parce que je sais que même Zuckerberg s'est fait questionner sur le sujet. Fait qu'on va creuser ça comme il se doit. Voilà.
Là-dessus, on va faire une petite pause et puis on vous revient avec d'autres nouvelles.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantis.
On parlait de canicule, en fait, on parlait de changement climatique un peu plus tôt. On amorce une autre semaine de canicule pour l'hémisphère nord qui s'en vient. Il va faire... C'est rendu comme... L'été, c'est une canicule, longue canicule.
Ouais, c'est un peu ça.
Puis là, on parle des mercures qui devraient dépasser à plusieurs endroits les 40 degrés, notamment dans des pays comme l'Italie, l'Espagne, 48 degrés en Sardaigne, c'est épouvantable. Rome, 42 degrés, c'est la température, imaginez le ressenti, là. Tu sais, l'image qu'on a, frontispice qu'on a mis sur l'article, c'est un thermomètre déposé par terre à New York, puis l'aiguille, c'est un thermomètre en forme de cadran, l'aiguille est à côté au bout à 50, là. Tu sais, c'est très, très chaud. Hey, je pensais à toi en voyant cette nouvelle-là, Martin. Profite du temps que tu as avec ton magnifique scooter, parce que ça se pourrait que qu'on décide de serrer la vis sur ce genre de véhicule-là. Le ministère des Transports est en train de travailler là-dessus pour essayer de faire des nouvelles règles pour essayer une meilleure cohabitation sur les pistes cyclables. Fait que tous les engins de type scooter, puis on parle aussi, bon, les gyro-roues, les espèces de... Ouais, les trottinettes électriques, les gyro-roues, c'est la roue que t'as entre les chevilles. Les planches gyroscopiques, les espèces de hoverboard, je sais pas qu'on appelle ça de même, parce que ça hover pas pantoute. Mais tous ces véhicules-là, mais principalement les scooters électriques. Pourquoi? Parce que... Bon, les trottinettes, les gyro-roues, ça va vite, mais c'est quand même un appareil qui est assez léger. Fait que, tu sais, en cas de collision, tu sais, ça, j'imagine, okay, évidemment,
ça sera peut-être... pas, ça va être pour nous protéger, nous, pas les gens autour de nous.
Ça va être pour protéger les usagers de la piste cyclable. Parce qu'un scooter, c'est pesant, c'est gros et ça va très vite comparé aux bicyclettes, puis au skate, puis d'ailleurs. Je pense pas que tu sais la crosse des pédales, c'est le chemin pour pouvoir circuler sur les pistes cyclables. Ben oui. Mais tu sais, je suis pas sûr que ce soit vraiment permis. D'ailleurs, moi, je fais ça en longboard. Je pense pas que ce soit permis non plus. Même les patins, c'est juste que c'est largement toléré. Mais les scooters, ça inquiète plus parce que c'est des véhicules qui sont plus rapides, plus lourds, qui peuvent embarquer un passager. Fait que tu peux être deux sur cette affaire-là. Fait que si tu arrives à 40 km/h avec deux adultes là-dessus. Puis tu fonces dans une poussette poussée par une madame qui traverse la rue, ou tu fonces dans des vélos, c'est sûr que c'est les vélos perdent, là. Tu sais, c'est beaucoup de poids, beaucoup de vitesse, juste la batterie est pesante. avec un passager en plus,
Je vais te corriger tout de suite, là.
Oui.
Parce que là, tu as dit quelque chose qui est faux, là. À Montréal, ton scooter peut pas aller plus vite que 32 km. Il n'y a pas de 40 km là-dedans.
OK, c'est la vitesse maximale du véhicule?
Ouais, absolument. L'autre affaire, c'est que, regarde, comme là, je parle du mien. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Mm. Mais moi, le mien, il ne va même pas à 32. La pointe que j'ai pognée, c'est 25. Je me fais dépasser régulièrement par des cyclistes. Puis j'ai aucun problème avec ça. J'essaye pas de pédaler pour aller repogner. L'autre affaire, puis là, écoute, j'ai trois semaines à peu près d'expérience, mais je me suis promené beaucoup. Tu sais, je peux pas parler pour les autres. Je vais te dire ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est toutes les transgressions du code d'utilisation d'une piste cyclable, je les ai vues par des vélos.
Ah oui, oui.
C'est il n'y a aucune exception, là. J'ai jamais vu un scooter passer, nanana. Tu sais, il y a beaucoup de livreurs aussi, livreurs d'Uber, livreurs de DoorDash, tout ça, qui utilisent des scooters, tout ça. Fait que moi, s'il y a une réglementation, hey, j'ai aucun problème avec ça. Je vais la respecter. Ça va finir là. C'est tout.
Non, mais la réglementation, ça risque d'être que t'as plus le droit d'aller sur les pistes cyclables. Puis comme tu peux pas aller sur la route non plus, tu vas peut-être avoir acheté ça pour rien. Mais c'est parce c'est qu'on essaie de réagir au ministère à la multiplication de véhicules de toutes sortes, là. Tu sais, c'est vrai que c'est rendu n'importe quoi une piste cyclable. C'est plus une piste cyclable, là. C'est une petite rue, c'est une petite route là, avec d'autres sortes de machines. Mais c'est, puis ce que tu dis sur les vélos, absolument, c'est vrai. Je corrobore ta version. D'ailleurs, tu sais, le fait d'être au volant d'une machine, d'un engin, te donne plus le réflexe de faire comme si c'était un véhicule de la route, de faire les stops, attendre les lumières, puis regarder avant de... Tandis que quand t'es sur un vélo, il y en a beaucoup qui font ça comme quand il y avait 10 ans, là. Puis s'en foutent de tout le monde.
Bixi, tu sais, moi, je peux te dire que j'ai une attention plus particulière quand je vois quelqu'un qui n'est pas habillé en cycliste. Puis je suis en faveur de Bixi, là. Mais mettons, je vois quelqu'un qui n'est pas habillé en cycliste. Puis il n'y en a pas, là, vraiment. Il n'y a pas de gars qui sont sous, ces cuissards qui roulent en Bixi, là. Mais tu sais, je prête une attention plus particulière parce qu'il y a les probabilités que ce soit quelqu'un qui est moins habitué grandes. Je ne dis pas que le monde qui roule en Bixi ne savent pas opérer un vélo. Pas ça, je dis.
Mais il y a beaucoup plus de gens inexpérimentés, comme tu dis.
Ceux qui savent pas opérer un vélo sont souvent en Bixi. C'est ça mon point.
Puis ceux qui sont des cyclistes plus expérimentés, habituellement, ils ont leur vélo, puis un meilleur que le Bixi.
Mais moi, je vais te dire mon...
C'est le Bixi du touriste, là, tu sais, c'est du touriste qui, que lui, tu sais, il dit, ah ouais, le Bixi, ça s'oublie pas, la dernière fois qu'il l'a fait, il y avait 8 ans, là. Je l'ai encore! Quand tu vois quelqu'un, qui part de, tu sais, de arrêter en mouvement, puis que le volant fait ça de même, là, méfie-toi!
ce que j'ai à dire là-dessus, moi, c'est que ce que je pense, là, c'est la chose suivante, c'est hyper simple, là. C'est qu'il existe une nouvelle réalité de transport. Puis ça, les trottinettes, puis ça, ça en fait partie.
Ouais.
Pourquoi que je trouve ça défendable? Et je suis très conscient que la noblesse, la pureté, c'est le vélo. OK? C'est tout correct.
Ben, c'est la vraie façon écologique.
Oui. Sauf que ce que je dis, c'est que mon opinion, c'est que la majorité des gens qui opèrent un scooter, c'est un véhicule à gaz de moins sur le chemin.
Oui, moi, je suis tout à fait en faveur de ça, là.
Fait que, puis l'autre affaire, s'il y a des gens qui se promènent en scooter électrique, puis là, on va régler tout de suite une affaire, là, OK? Moi, là, quand je parle de scooter électrique, là, parce qu'il y a des classes là-dedans, puis il y a des catégories. Moi, quand je parle de scooter électrique, je parle d'un scooter qui a des pédales après, que oui, c'est une gimmick pour contourner le fait de pouvoir utiliser les pistes cyclables. C'est de ça que je parle. Je parle pas des scooters électriques qui peuvent atteindre des pointes de 60-70 km qu'il faut que tu plaques, puis que tu assures. Ça, c'est pas pareil. C'est pas non plus comme dans le temps, le QT, je me souviens plus, QT 50 d'Honda, qui avait des pédales après pour le partir, qu'on appelait des mopettes ou des mopèdes.
Oui, c'est ça, okay? c'est des mobilettes.
On parle pas de ça. Il y a pas de mopèdes sur les pistes cyclables. Fait que là, on va juste démêler tout le monde, là. Moi, je parle d'un scooter électrique muni de pédales, lui permettant ainsi d'aller sur les pistes cyclables.
Les pédales, ils bougent-tu ou sont juste comme fixes?
Ils bougent, ouais. Ils sont attachés. Écoute, sinon... sont attachés après la chaîne, là.
OK, tu peux pédaler pour vrai avec.
Il y a des pédales qui sont attachées après la chaîne.
OK, fait que je pense pas que tu puisses pédaler vraiment. Mais oui, ce que tu parles, les mobilettes, ouais, les pédales servaient juste à partir le moteur sur la compression.
Si t'appelles un scooter électrique une mopette, ben, tu peux, c'est bien beau, mais c'est pas la connotation qu'on y donnait à l'époque que les mopettes existaient pour vrai, là.
Non, c'est ça. Ben aussi, il y en a aussi qui vont appeler beaucoup en anglais les scooters des mopettes, là, mais...
Autre affaire. Personne n'a de permis ni de casque. Tu peux pas opérer à Montréal un scooter électrique pas de casque.
Moi, j'ai jamais vu personne qui avait pas de casque au volant de ces machines-là encore.
C'est ça.
Mais je pense que l'idée aussi, ça va être aussi de vous squeezer puis vous faire payer une plaque quelconque, quelconque.
Moi, je te le dis, là, à date, ça fait 3 semaines, j'adore ça, j'ai du fun, j'observe. Tu sais, moi, je suis pas le gars là, qui regarde à la rouge, il y a des chars puis qui traverse, là. J'attends la signalisation, tout ça. J'ai beaucoup de plaisir, puis je peux pas mal t'assurer que dans la très grande majorité, ça dépend du moment dans la semaine, mais dans la très grande majorité des cas, l'endroit d'où je pars contre un véhicule à gaz, je te parle d'une auto ici, je vais arriver avant lui.
Ah oh, oui, absolument, absolument. Puis tu sais, on dit, c'est vrai que les cyclistes, c'est un petit, peut-être un peu plus les plus... plus impétueux sur les pistes cyclables, mais de façon générale, tout le monde attend les lumières, puis tout le monde arrête. Pour vrai, à Montréal, il y a un civisme quand même sur les pistes cyclables.
Là, je veux juste répondre à mon Jacker Nicus, là, parce que je veux pas que tu penses que je te call out, là. Je reprends tes mots. Personne n'a des permis ni de casque. Puis là, tu me dis, va voir à côté du métro Joliette. C'est pas tout le monde, ça, là.
C'est à côté du métro Joliette.
C'est ça. Moi, je te dis... Je te dis pas qu'il n'y a pas de monde qui se promène là-dessus, pas de casque. Je te dis qu'à Montréal, tu es obligé de porter un casque. Donc, si tu te fais intercepter, tu pourras avoir une contravention, genre qui donnerait à quelqu'un qui a un bicycle, un vélo. Là.
Moi, quand je suis à Montréal.
Pas que personne n'a de casque, c'est pas vrai.
Non, c'est pas vrai. Quand je suis à Montréal, je passe souvent, dès qu'il fait beau, je passe plusieurs heures par jour sur les pistes cyclables en longboard. Puis ceux qui conduisent les petits scooters électriques, j'en ai pas vu qu'il y avait pas de casque. C'est moi le tata qui a pas de casque avec mon longboard. Mais il y a un autre fléau aussi qu'on voit ici, notamment à Victoriaville, c'est c'est comme des triporteurs ou des quadriporteurs, mais ils ont une cabine de voiture avec, tu sais, carrément, puis c'est fermé, puis c'est en plastique, puis c'est complètement... C'est pas un petit toit, tu sais, en toile. Il y a vraiment une espèce de carrosserie autour de ça. Puis ça se ramasse des convois de 7-8 sur la piste cyclable ou sur la route. Parce qu'ils ont des petits flashers, tout ça, mais c'est illégal partout. T'as pas le droit ni sur la piste cyclable, ni sur la route, mais il y en a partout. Il y a quelqu'un qui en vend d'ailleurs ici.
Ah ouais, ben
puis
ouais.
C'est quasiment un cart de golf. Ça ressemble plus à un cart de golf que n'importe quoi d'autre. Sauf que il y a vraiment une cabine avec des portes puis des wipers en avant, là. T'sais, c'est un petit char miniature. Et puis c'est pas légal. Mais il y en a beaucoup, puis il va falloir qu'ils légifèrent là-dessus, parce que c'est quand t'es sur un véhicule comme ça, notamment sur une piste cyclable, c'est bon que tu puisses avoir un contact avec l'environnement extérieur. T'es pas un véhicule routier, t'es pas un char, là.
Je roulais sur Ontario, c'est la piste cyclable, là, puis il y a une marque qui s'appelle Gio, là, j'en ai vu beaucoup. Tu sais, comme le mien, là, il ressemble à un vélo, OK? Je veux dire, il rappelle un vélo,
ouais.
OK? Bon, c'est sûr qu'il y en a, je vais te donner un exemple. La compagnie Gio, eux autres, là, c'est vraiment un scooter, OK, avec des pédales après. Tu sais, t'as pas l'air, il y a aucune référence à un vélo. Tu sais, pour moi, c'était comme important, je sais pas pourquoi, là, peut-être pour pas justement me faire regarder de travers ou me donner bonne conscience, mais... cette compagnie-là est reconnue. Là. C'est un scooter, là, comme les Yamaha que vous voyez, le Salient dans le temps quand j'étais petit, je me rappelle. Mais il y a des pédales. Et cette même compagnie-là fait un triporteur, une affaire avec 3 roues, que tu sais, ça a vraiment l'air d'un Goldwing à 3 roues, là, en plus petit.
Ouais, okay? Ouais.
Puis il y a un dude en arrière de moi. Moi, je roule sur la piste cyclable réservée sur Ontario. Je m'en vais en direction est, m'en revenais chez nous. Je l'ai dans les fesses.
Avec son gros système de son.
Je l'ai dans les fesses, là. Puis moi, je roule au fond, là. Je dois être à 23-25 km sur le plat km/h, là. Puis je l'ai littéralement dans les fesses. Je l'entends respirer, là, parce que ça fait pas de bruit, là. Fait que tu sais, à un moment donné, moi, je fais signe, ah ouais, il passe, tu sais. Puis il a passé à côté de moi, là. Schling! Tu sais, quasiment comme une flèche, là.
Comme si t'étais arrêté.
Ça, je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en plus, il emmène pas mal plus large sur une piste cyclable. Là. Puis c'est du tout, oui, les pistes cyclables. Pas toutes. C'est pas toutes. Le rev, là, la voie réservée, comme sur Saint-Denis, là, tout le monde s'en va du même bord. Mais quand tu t'en vas dans les rues transversales, là, comme Ontario, comme il y en a plusieurs, bien, ça rend compte, c'est ça. Fait que tu fais quoi avec
Maison
ça?
Maisonneuve.
Oui, mais non, Maisonneuve, oui, t'as raison. Maisonneuve, Ontario, jusqu'à City Councilor, tu peux aller pas mal dans l'ouest, tout ça. Fait que, regarde, gars, tu sais, c'est C'est assez particulier. Puis, écoute, moi, je suis super content. Je considère que c'est une méthode de transport d'appoint qui fait mon affaire. Puis, je peux aller à toutes mes rencontres, mes affaires, ça va super bien. Puis, s'il y a une réglementation, s'il faut que je paye de quoi, je vais le payer. Puis, s'ils disent, ben c'est fini, ben qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ferai pas un convoi, moi, là, jusqu'à Ottawa en scooter, là. Oublie ça.
Ouais, ça va être la difficulté. Tu le vendras en région, tu sais. Que...
Ben, bon, ouais, on capotera pas avec ça, là. C'est pas un style de vie, là.
Mais les triporteurs, les quadriporteurs, puis les mini-chars, ça je trouve que là, ils poussent, là. Là, que c'est plus que deux roues, décalise la piste cyclable, là. Je trouve ça dangereux plus souvent qu'autrement, là. Ils sont trop larges, ils vont trop vite, ils chauffent mal. Ça m'énerve. Je parle pas des petits triporteurs puis des gens qui ont une mobilité réduite puis ils vont tranquillement sur les trottoirs, là. Je parle du monde qui sont capables de marcher en masse, là, ou qui pourraient faire du bicycle, mais ils veulent être assis, puis ils veulent avoir leur porte-gobelet, puis ils veulent avoir leur confort de char, puis en se faisant croire qu'ils font de l'exercice, puis ils clenchent, puis ils roulent comme des épais avec ça des fois, puis ça fait dur. Là. À un moment donné, c'est parce que plus ça va, plus les triporteurs et quadriporteurs ressemblent à des chars, ben sacrés-les sur la route. T'sais. Enlever ça de ces pistes cyclables, ça devient dangereux. Il y a encore des enfants hein, sur les pistes cyclables. Ça existe encore, ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut faire attention un petit peu.
Moi, je vais répondre à Twitch, la Switch, la côte Berry, là, tu sais, qui mène, mettons, de Ontario à Sherbrooke. Là, moi, je monte ça. C'est mollo, mais facilement. Là. Ça force pas, là. Ça traîne pas. Mais c'est sûr que c'est, écoute, tu le sens, là, c'est électrique. Fait que, tu sais, sur le démarrage, c'est sûr que ça, c'est hyper rapide. Tu sais, c'est long avant d'arriver à sa vitesse maximale, mais tu sais, ça kick quand tu passes si tu veux. Tu sais, tu fais vraiment schlick, là, tu le sens partir.
Passe le wheelie.
Mais c'est sûr qu'on va défoncer Frank aujourd'hui parce qu'il faut absolument que je parle d'un sujet qu'on a déjà abordé. Je vais le faire rapidement pareil, vous relayez l'article. Là. Moi, mon américanologue préféré, c'est Richard Etu. C'est lui que je trouve qui a la vision la plus intéressante sur les choses qui se passent aux États-Unis. Puis il y a un papier dans la presse. Il y a un blog d'ailleurs aussi, le blog de Richard Etu. Vous allez voir ça sur Internet. Moms for Freedom, on en a déjà parlé. Ce sont ces mamans, n'est-ce pas, qui tentent de censurer des livres dans les écoles et tout ça. Ça émane de la Floride, puis le papier super intéressant papier de Richard Etu de ce matin s'intitule Avez-vous peur? Qui a peur de ces mamans? Excusez, c'est pas Moms for Freedom, là. Je suis trop dans Freedom de ce temps-là. C'est Moms for Liberty.
Ouais.
C'est trois dames qui ont participé. Une qui s'appelle Tina Deskovich, l'autre s'appelle Tiffany Justice. J'invente pas ça. Et ils ont eu, à fin juin, ils ont eu leur sommet annuel à Philadelphie. Endroit, bien sûr, où tous les représentants républicains se sont assurés d'être présents, entre autres Nick DeSantis et Donald Trump. Nikki Haley aussi qui a été là pour... Et ils sont présentés là, ni plus ni moins, pour, les flatter, on va le dire comme ça.
Ah oui, les brûleuses de livres, ils les aiment, eux autres.
Oui, tout à fait. Puis je vais t'en faire la preuve. Moms for Liberty suscite des sentiments diamétralement opposés. Fondée en Floride pour protester contre le port du masque à l'école, l'organisation est devenue en 2 ans et demi une force incontournable au sein de la droite américaine avec plus de 250 antennes ou chapitres dans 45 États et plus de 110 000 membres. La menace de la COVID étant largement passée, Moms for Liberty se consacre désormais à la lutte contre un autre péril. Le wokisme, n'est-ce pas? Eux autres, dans leur bataille est contre l'orientation sexuelle et l'identité du genre comme sujet abordé en classe. Ils sont contre les livres traitant de sexualité ou de racisme dans les... Le racisme, là, ça n'existe pas. On ne devrait pas parler de ça, Frank.
Sauf le racisme anti-blanc, ça, c'est un problème.
Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il existe une organisation qui s'appelle le Southern Poverty Law Center, le SPLC, qui a collé l'étiquette d'extrémiste de droite à ce groupe-là. Et là, ben,
avec écoute, raison.
C'est l'enfer. Ben oui, tout à fait. Des cris de ralliement similaires ont été adoptés par ceux qui s'opposaient à la déségrégation des écoles pendant le mouvement des droits civiques et par la majorité morale des années 80. C'est Suzanne Court qui affirme ça, la directrice du SPLC. Les activités de Moms for Liberty montrent clairement que les principaux objectifs du groupe sont d'alimenter l'hystérie au sein de la droite et de rendre le monde moins confortable ou moins sûr pour certains élèves, principalement ceux qui sont noirs, LGBTQ ou issus de familles LGBTQ. Ça, ce que je viens de vous lire là, c'est ce que le Southern Poverty Law Center affirme que la mission que s'est donnée cette organisation-là, qui est Moms for Liberty. Quand Trump, selon les sondages, la plupart des Américains, y compris près de la moitié des Républicains, s'opposent à l'une des plus importantes activités de Moms for Liberty, la censure de livres dans les écoles. C'est ça leur talon d'Achille. Parce que, je te donne un exemple, il y a un livre qui s'appelle Lucky, qui est le récit autobiographique de la romancière Alice Sebold sur la façon dont son viol à 18 ans a transformé sa vie. Ça, faut pas que ça soit dans les écoles.
Non, faut pas en parler de ça.
Non, faut pas
parler
pas, de ça.
Faut...
I Am Billie Jean King, que tu connais peut-être, qui est cette tennis woman qui a été numéro un mondial longtemps et qui a... elle évoque son homosexualité dans le livre. Le livre fait maintenant l'objet d'un examen après la contestation d'un parent.
Ouais, on est rendu là. Mais s'il y a un livre qui explique initiation sur les guns pour les enfants, ça n'aura pas de problème avec ça.
Je te cite, ça c'est des choses qui ont été dites à leur congrès là, à Philadelphie à fin juin. Ron DeSantis a indiqué que il dit voir dans les critiques ciblées à l'organisation un signe que nous gagnons cette bataille. C'est tellement républicain de dire ça. Donald Trump, veux-tu savoir ce qu'il a eu à dire? Écoute, je te demanderais de me le dire ce qu'il a dit et tu le trouverais, mais je vais te le dire pareil. Moms for Liberty n'est pas un groupe haineux. Il est sur stage devant elle, puis il dit... Vous êtes la meilleure chose qui soit arrivée à l'Amérique.
Eh oui, mais s'il était devant leurs adversaires, il leur dirait la même affaire. C'est un flagorneur, c'est une grosse merde.
Bon, sais-tu qui d'autre était à ce séminaire-là, ce congrès-là, cette convention? C'est plutôt. L'avocate Chrisanne Hall, membre de la milice anti-gouvernementale Oath Keepers.
Oh non.
Et du groupe nationaliste blanc League of the South. L'auteur James Lindsay, promoteur d'une théorie du complot selon laquelle les États-Unis sont menacés par une révolution culturelle maoïste orchestrée par de hauts responsables du gouvernement fédéral et d'institutions élitistes.
OK, c'est des fascistes puis des conspis là, à date. Là.
Ouais, puis là, ben, il y a trois dames là-dedans. Je les ai nommées, les deux premières, je les ai nommées. Ce sont Tina Deskovich et Tiffany Justice.
Ouais, vache numéro 1, vache numéro 2.
Il y en a une troisième. Il y a une dame qui s'appelle Bridget Ziegler. Ben, devine à qui qu'elle est mariée, cette Bridget Ziegler-là.
Adolf Thompson.
À Christian Ziegler, qui est nul autre que le président du Parti républicain de la Floride.
Ah, oh, Colin. Après ça, on se demande pourquoi c'est extrémiste, ce parti-là. Ben oui.
Là, alors qu'il était là, il a célébré son... Christian Ziegler est marié à l'autre fondatrice de Moms for Liberty, Bridget Ziegler, qui a célébré son élection à la commission scolaire du comté de Sarasota en présence de membres du groupe néo-fasciste les Proud Boys.
Ouais.
Tu sais,
imagine... Ça ressemble.
Et là, ben, y a quelque chose, il y a une polémique, en fait, là, qui s'opère. Parce que en Indiana, le chapitre de Moms for Liberty, qui est en Indiana, a dans son bulletin d'information, dans son infolettre, le groupe a cité une déclaration attribuée à Adolf Hitler. Cette déclaration-là, c'est quelque chose qui tourne autour de le salut. Et pour les gens qui contrôlent la jeunesse ou une affaire comme ça, là,
avec ces jeunesses hitlériennes, il avait compris ça, lui.
Ouais, c'est ça, là, j'essaie de la trouver. Seul celui qui possède la jeunesse gagne l'avenir. Voilà, ouais. ce serait bon. Fait que là,
c'est bien
ça
dit,
un petit
c'est
peu,
ça le pire.
Ben c'est ça, puis écoute, ça a soulevé un petit peu le tollé dans les médias. Fait que là... Si vous vous demandez c'est quoi Moms for Liberty, si on vous parle de, tu sais, les madames là, qui essaient de faire enlever des livres en Floride puis toute la kit, ben c'est ça. c'est eux autres. C'est 110 000 membres. C'est devenu un groupe assez important pour que ceux qui briguent l'investiture républicaine aillent à leur gros party, puis les flattent. Puis c'est associé avec des gens, ils font venir sur scène des gens pour des orateurs qui sont associés à des cochonneries comme Oathkeepers,
des nazis,
League of the South, puis des néo-nazis, puis des Proud Boys.
Fait que, c'est une gang de
si
de,
vous demandiez c'est quoi, là vous le savez.
C'est Fascist Mom for Liberty, c'est de même que ça devrait s'appeler.
Ouais.
Ou Mom for Fascism.
Moms for Fascism.
C'est une bonne nouvelle au moins.
Oui, j'ai une bonne nouvelle, Frank. S'il y a des personnes, hommes ou femmes, parce que moi je discrimine pas, tu sais, qui être sur le point ou contempler la possibilité éventuellement de demander quelqu'un en mariage. Hein. On connaît l'espèce de comment dirais-je, le lore entourant les diamants, n'est-ce pas? Et tu sais, bon, c'est toute demande en mariage qui se respecte doit être assertie de. Certi plutôt d'un diamant.
Ah oui.
Et puis là, ben moi, je savais pas que ça existait, ça. Parce que si j'avais su ça, là, 20 ans, je te jure, j'aurais sauvé une coupe de mille. Mais il existe, en fait, et ça devient de plus en plus populaire. Ça a eu une croissance auprès des joailliers de. Puis peut-être que notre chum UVH, qui lui-même est impliqué dans ce monde-là, dans le passé, pourra nous en parler plus m'emmener. Mais donc, on assiste à une croissance de 2000% des ventes de diamants qui sont conçus, qu'on fait littéralement. Poussé, puis je vais tout vous expliquer ça, en laboratoire. La pureté, il y a eu des sondages qui ont été faits, tout indique que c'est une tendance vers laquelle on s'en va. La différence entre un diamant naturel et ces diamants-là, je vais vous la montrer tantôt, à mon sens, il n'y en a pas. Si ce n'est que 85 fucking pour cent moins cher. Fait que lâchez le zirconia cubique, là, puis allez-vous-en vers ça, parce que ce serait... puis là, ben évidemment...
C'est moins long, hein, que faire un vrai diamant avec la nature, puis là, la compression
ben,
de...
Ben, non, tu vas comprendre dans deux secondes, parce que ça implique invariablement l'utilisation d'un vrai.
OK.
Fait que ça veut pas dire qu'il y aura plus... Tu sais, parce qu'évidemment, là, vous avez tous vu Blood Diamond, puis vous avez, tu sais, là, on le sait, là, que c'est érigé au statut de système, tout ça, puis qu'il y a de la traite de diamants, puis qu'il y a des, écoute, ça, c'est
pas sale, là, avec des enfants qui exploitent des enfants, tout ça, puis moi, pour vrai, j'ai jamais compris l'intérêt d'acheter une roche à des milliers de dollars, là.
Ben non, ben, c'est ça, exactement. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer une vidéo dans laquelle tu vas assister, puis j'ai bien fait, je pense, mes devoirs parce que tu vas voir en entier le processus, puis j'ai même sous-titré le truc. Oh. C'est pas mal intéressant. On reste calme. Voilà.
CVD Diamonds, named after its process, chemical vapor deposition. Undergo the same process as natural diamonds. It all starts with a diamond seed. A thin layer is cut from the natural diamond to form the CVD diamond seed. This seed is a type 2A seed, the purest form of diamond, 100% carbon. The seed is then polished and prepared to a required thickness for it to be placed in the CVD plasma reactor. Once placed in the reactor, the process begins, exactly the same as found under the surface of the earth. An intense environment of the temperature and pressure is created just like that found in the earth. When the diamond is growing in a natural environment,
venez mourir avec nous, je casse à chaque fois.
Boron enter the diamond formation along with the gases. CVD process is controlled and doesn't allow any impurities to enter the diamond. Carbon particles slowly start disintegrating and forming layers on top of the diamond seed. The result is a rough CVD diamond. The same as a natural diamond, only purer. The diamonds are then removed with precision. And the cutting process begins.
Évidemment, vous comprenez que c'est une pub
and
aussi, là.
They are the same. CBD diamonds have the same physical, chemical, and optical properties as the natural diamond. The guarantee of quality, the beauty of
bon,
nature.
Bon, là, le bout de la pub, on s'en fout, là, mais... Donc, apparemment, ça aurait les mêmes propriétés, à peu près les mêmes propriétés à presque tout égard. Puis là, évidemment, là, je consentends là, que... Vous pouvez très bien faire une demande en mariage sans que ça implique de diamants CVD ou pas. Là. Mais je trouve ça quand même... Tu sais, comment tu fais pour... tu sais, parce que là, j'imagine que la contre-offensive publicitaire de ça... Don't settle for less. Puis tu sais, ça va tout être des enfants. Acheter des diamants que des enfants sont morts pour vous trouver.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est des vrais diamants. Niaisez pas.
T'sais. Si personne n'est mort pour ton diamant...
C'est
ça
pas
vaut rien. C'est pas, la
moi,
même, pas le même
ça,
prestige.
C'est ça. Je trouve ça vraiment hot. Puis, tu sais, moi, je fais juste dire. Là, parce que là, on s'entend. Là, un vrai diamant, ça sert pas juste à faire des bagues. Là, on a juste à parler de diamond drill puis toutes ces affaires-là. Là. Mais, comme l'or, tu sais, l'or plaque des circuits imprimés puis tout. Mais moi,
sauf que l'or, c'est un élément. On peut pas le refaire.
Non, on s'entend. Mais dans le fondement même de ce que je trouve qu'il n'y a pas d'allure avec les métaux précieux. C'est que c'est nous autres qui a décidé qu'il était précieux. C'est juste ça, mon point. Moi, là, je m'en calisse que d'avoir un bracelet qui a l'air de l'or puis qui l'est pas. Tu sais, je considérerais pas que ça me diminue comme être humain, tu sais. Je m'en sac comme dans l'an 40 pour vrai. Là,
l'or, ça a quand même des propriétés, une conductrice notamment, tout ça, mais... Puis les diamants, c'est la dureté qui est la propriété principale. T'sais, on peut s'en servir pour couper du verre,
tout
faire un
fait.
Paquet d'affaires. Mais de mettre ça des milliers puis des milliers de dollars pour une petite roche...
Ben, c'est ça. Exactement.
Fait que tant mieux si ça démocratise là, ça puis que ça fait fermer des mines qui exploitent du monde. Puis dans lesquelles les gens meurent pour que nous, riches nord-américains, on puisse faire à croire à une femme qu'on l'aime plus parce qu'on a mis bien de l'argent.
Ben voilà, c'est exactement ça. Tu sais, je pense à Burks, je pense à toutes les compagnies américaines là, tu sais, qui vendent justement des bijoux, qui achètent à prix d'or, sans jeu de mots, de la pub partout, puis tout le kit, puis Case Jewelers aux États-Unis, puis ainsi de suite. Tu sais. On s'entend là, qu'on n'aura pas à convaincre personne ici du fait que de ne pas donner à quelqu'un un diamant pour lui demander de t'épouser ne veut pas dire que tu l'aimes moins que si tu l'avais fait. Là. Sauf que, pour certains, oui. Puis moi, ben, je trouve ça cool qu'il existe une alternative qui n'implique pas d'envoyer des enfants creusés dans la boîte au péril de leur vie pour que ceux qui pensent que ça en a de l'importance puissent le faire. Ça, c'est une alternative tout à fait valable. Puis moi, je pense qu'il est temps qu'on arrête de capoter avec ça. Là.
Je pense qu'il est temps que Mel Gibson fasse un film sur les diamants.
Oui, qu'il fasse un film, voilà. Quand est-ce que la Fédéla Tapouette, quand est-ce qu'elle va faire la promotion des diamants qu'ils ont fait pousser dans les laboratoires? Là?
Ah,
comment
ouais,
ça qu'ils sont pas là-dessus? Là?
Oui, mais c'est pas si grave que ça, les enfants qui meurent dans les mines. Ce qui est grave, là, c'est d'avoir un masque d'en face là, puis d'avoir un petit peu chaud quand on respire.
Bon, voilà. Puis tu sais, ben là, écoute, là, j'ai pas de raison de pas croire ce qu'il dit dans la vidéo, là, parce que c'est quand même des manufacturiers de ça qui en parlent. Mais, tu sais, je veux dire, moi, ils m'ont closé à, c'est les mêmes propriétés physiques, optiques, chimiques.
La même affaire.
Et aussi pur qu'un vrai, entre guillemets,
plus
diamant.
Plus pur, parce qu'il y a des impuretés dans la terre.
You got me at purest.
Ouais, c'est ça. Moi, ça me fera pas acheter des bijoux et des diamants parce que ben, je trouve pas ça beau, premièrement. Puis, mais si j'ai à en acheter, c'est certain que ça va être un de ceux-là. Ça sera pas un vrai. Ça va être un vrai, mais ça sera pas un naturel. Mais à la base, honnêtement, je trouve pas ça bien beau. Je trouve ça pas plus beau qu'un bloc de sel ou bien que d'un morceau de vitre. Pour vrai, je vois pas.
Ouais, mais c'est pas pour toi et tu l'achèterais, Frank. C'est ça mon point. Là.
Ouais, c'est ça, mais j'écoute, je l'achèterais juste pas. Mais si je devais en acheter un, ça serait comme ça, c'est sûr.
Si jamais à un moment donné, tu pognes une chire de te faire un rack, là, tu le feras avec ces diamants.
Un rack?
Alors, ben, je me souviens plus comment ils appellent ça, là, mais tu sais, il y a des rappers qui ont des dents diamants.
Des grills.
Des grills, bon.
Oh, il y en a pis tout ça. Oh, oui, c'est
ça. Tu vois que des grills, bon, voilà.
Ça me ferait bien avec des grills. Ça,
ouais, je te verrais. Mais tu reviens des îles, ce serait pas pire, là. Je te verrais avec ton grill. Ah, regarde, j'ai dit rack, puis tout le monde savait que je parlais de grill, fait que c'est parfait.
Écoute, moi, je vais me contenter de mettre du homard puis du crabe dans cette gueule-là. Ça coûte quasiment aussi cher, mais c'est bien meilleur.
Bon, ben parfait.
Hey, on se quitte là-dessus, on s'en reparle demain midi.
Membre de la famille H2O Web Media.